Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Appendice, première partie de 2. Numéro 1. Notice sommaire sur l'histoire d'Égypte, rédigée à Alexandrie pour le vice-roi et remise à son Altesse au mois de novembre 1829. Les premières tribus qui peuplèrent l'Égypte, c'est-à-dire la vallée du Nil entre la cataracte d'Oswan et la mer, venaient de l'Abyssinie ou du Sennar. Mais il est impossible de fixer l'époque de cette première migration excessivement antique. Les anciens Égyptiens appartenaient à une race d'hommes tout à fait semblable aux Kenou ou Barabra, habitants actuels de la Nubie. On ne retrouve dans les Coptes d'Égypte aucun des traits caractéristiques de l'ancienne population égyptienne. Les Coptes sont le résultat du mélange confus de toutes les nations qui, successivement, ont dominé sur l'Égypte. On a tort de vouloir retrouver chez eux les traits principaux de la vieille race. Les premiers Égyptiens arrivèrent en Égypte dans l'état de nomades et n'avaient point de demeure plus fixe que les Bédouins d'aujourd'hui. Ils n'avaient alors ni science, ni art, ni forme stable de civilisation. C'est par le travail des siècles et des circonstances que les Égyptiens, d'abord errants, s'occupèrent enfin d'agriculture et s'établirent d'une manière fixe et permanente. Alors naquirent les premières villes, qui ne furent, dans le principe, que de petits villages, lesquels, par le développement successif de la civilisation, devinrent des cités grandes et puissantes. Les plus anciennes villes de l'Égypte furent Thèbes, Louxor et Karnak, Esné, Edfou et les autres villes du Saïd, au-dessus de Dendera. L'Égypte moyenne se peupla ensuite, et la basse Égypte n'eut que plus tard des habitants et des villes. Ce n'est qu'au moyen de grands travaux exécutés par les hommes que la basse Égypte est devenue habitable. Les Égyptiens, dans les commencements de leur civilisation, furent gouvernés par les prêtres. Les prêtres administraient chaque canton de l'Égypte sous la direction du grand prêtre, lequel donnait ses ordres, disait-il, au nom de Dieu même. Cette forme de gouvernement se nommait théocratie. Elle ressemblait, mais bien moins parfaite, à celle qui régissait les Arabes sous les premiers califes. Ce premier gouvernement égyptien, qui devenait facilement injuste, oppresseur, s'opposa bien longtemps à l'avancement de la civilisation. Il avait divisé la nation en trois parties distinctes. Premièrement, les prêtres, deuxièmement, les militaires, troisièmement, le peuple. Le peuple seul travaillait, et le fruit de toutes ses peines était dévoré par les prêtres, qui tenaient les militaires à leur solde et les employaient à contenir le reste de la population. Mais il arriva une époque où les soldats se lassèrent d'obéir aveuglément aux prêtres. Une révolution éclata, et ce changement, heureux pour l'Égypte, fut opéré par un militaire nommé Ménaï, qui devint le chef de la nation, établit le gouvernement royal et transmit le pouvoir à ses descendants en ligne directe. Les anciennes histoires d'Égypte font remonter l'époque de cette révolution à 6000 ans environ avant l'islamisme. Dès ce moment, le pays fut gouverné par des rois et le gouvernement devint plus doux et plus éclairé, car le pouvoir royal trouva un certain contrepoids dans l'influence que conservait nécessairement la classe des prêtres, réduite alors à son véritable rôle, celui d'instruire et d'enseigner en même temps les lois de la morale et les principes des arts. Thèbes resta la capitale de l'État, mais le roi Ménéi et son fils et successeur Atoti jetèrent les fondements de Memphis, dont ils firent une ville forte et leur seconde capitale. Elle exista à peu de distance du Nil et on a trouvé ses ruines dans les villages de Memph, Mokhnan et surtout de Mithrahine. Les anciens historiens arabes nommèrent Memphis Mars el-Kadimé pour la distinguer de Mars el-Attiqué, Phosphat ou le vieux Caire, et de Mars el-Kahira, le Caire, la capitale actuelle. Une très longue suite de rois succéda à Ménéi. Diverses familles occupèrent le trône et la civilisation se développa de siècle en siècle. C'est sous la troisième dynastie que furent bâties les pyramides de Dachour et de Saqqara, les plus anciens monuments dans le monde connu. Les pyramides de Gizeh sont les tombeaux des trois premiers rois de la cinquième dynastie, nommés Soufi Ier, Sensaoufi et Mankéri. Autour d'elles s'élèvent de petites pyramides et des tombeaux, construits en grande pierre, qui ont servi de sépultures aux princes de la famille de ces anciens rois. Sous ces dynasties ou familles régnantes, qui se succédèrent les unes aux autres, les sciences et les arts naquirent et se développèrent graduellement. L'Égypte était déjà puissante et forte. Elle exécuta même plusieurs grandes entreprises militaires au dehors, notamment sous des rois nommés Sésocris, Aménémée et Aménémophe. Mais les monuments de ces rois n'existent plus, et l'histoire n'a conservé aucun détail sur leurs grandes actions, parce qu'après le règne de ces princes, un grand bouleversement changea la face de l'Asie. Des peuples barbares firent une invasion en Égypte, s'en emparèrent et la ravagèrent en détruisant tout sur leur passage. Thèbes fut ruinée de fond en comble. Cet événement eut lieu environ 2800 ans avant l'islamisme. Une partie de ces barbares s'établit en Égypte et tyrannisa le pays pendant plusieurs siècles. La civilisation première égyptienne fut ainsi arrêtée et détruite par ces étrangers, qui ruinèrent l'État par leurs exactions et leurs rapines, en faisant disparaître par la misère une partie de la population locale. Ces barbares ayant élu un d'entre eux pour chef, il prit aussi le titre de Pharaon, qui était le nom par lequel on désignait dans ce temps-là tous les rois d'Égypte. C'est sous le quatrième de ces chefs étrangers que Youssouf, fils de Yacoub, devint premier ministre et attira en Égypte la famille de son père, qui forma ainsi la souche de la nation juive. Avec le temps, diverses parties de l'Égypte supérieure s'affranchirent du joug des étrangers, et à la tête de cette résistance parurent des princes descendants des rois égyptiens que les barbares avaient détrônés. L'un de ces princes, nommé Amosis, rassembla enfin assez de force pour attaquer les étrangers jusque dans la basse Égypte, où il s'était le plus solidement établi, au moyen des places de guerre, parmi lesquelles on comptait en première ligne Aouara, l'immense campement fortifié qui exista dans l'emplacement actuel d'Abu Qetcheid, du côté de Salahiyye. Les exploits militaires d'Amosis délivrèrent l'Égypte de la tyrannie des barbares. Il les chassa de Memphis, dont ils avaient fait leur capitale, et les contraignit de se renfermer tous dans la grande place d'armes d'Awara, dont le siège fut commencé. Amosis étant mort sur ces entrefaites, son fils Amenophe continua le blocus et força les étrangers à une capitulation en vertu de laquelle ils évacuèrent l'Égypte pour se jeter sur la Syrie, où s'établirent quelques-unes de leurs tribus. Amenophe, le premier de ce nom, réunit ainsi toute l'Égypte sous sa domination et releva le trône des pharaons, c'est-à-dire des rois de race égyptienne. C'était le chef de la 18e dynastie. Son règne entier et celui de ses trois premiers successeurs, Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II et Méristhoutmôsis III, furent consacrés à reconstituer en Égypte un gouvernement régulier et à relever la nation écrasée par les longues années de la servitude étrangère. Les barbares avaient tout détruit. Tout était par conséquent à reconstruire. Ces grands rois n'épargnèrent rien pour relever l'Égypte de son abaissement. L'ordre fut rétabli dans tout le royaume. Les canaux furent recreusés, l'agriculture et les arts encouragés et protégés ramenèrent l'abondance et le bien-être parmi les sujets, ce qui accrut et perpétua les richesses du gouvernement. Bientôt, les villes furent reconstruites. Les édifices consacrés à la religion se relevèrent de toutes parts. Et plusieurs des monuments qu'on admire encore sur les bords du Nil appartiennent à cette intéressante époque de la restauration de l'Égypte par la sagesse de ses rois. De ce nombre sont les monuments de Semné et d'Amada en Nubie et plusieurs de ceux de Karnak et de Medinet Habu, qui sont de beaux ouvrages de Thoutmôsis Ier ou de Thoutmôsis III, qu'on appelait aussi Méris. Ce roi qui a fait exécuter les deux obélisques d'Alexandrie est celui de tous les pharaons qui opéra les plus grandes choses. C'est à lui que l'Égypte doit l'existence du grand lac de Fayoum. Par les immenses travaux qu'il fit faire, et au moyen de canaux et d'écluses, ce lac devint un réservoir qui servait à entretenir, pour tout le pays inférieur, un équilibre perpétuel entre les inondations du Nil insuffisantes et les inondations trop fortes. Ce lac portait autrefois le nom de lac Méris, aujourd'hui Birket Karoun. Ces rois et quelques-uns de leurs successeurs paraissent avoir conservé, dans toute sa plénitude, le pouvoir royal qu'ils avaient arraché au chef des barbares. Mais ils n'en usèrent qu'à l'avantage du pays. Ils s'en servirent pour corriger et reconstituer la société corrompue par l'esclavage et pour replacer l'Égypte au premier rang politique qui lui appartenait au milieu des nations environnantes. Quelques peuples de l'Asie avaient déjà atteint à cette époque un certain degré de civilisation, et leurs forces pouvaient menacer le repos de l'Égypte. Méris et ses successeurs prirent souvent les armes et portèrent la guerre en Asie ou en Afrique, soit pour établir la domination égyptienne, soit pour ravager et affaiblir ses états et assurer ainsi la tranquillité de la nation égyptienne. Parmi ses conquérants, on doit compter Amenophe II, fils de Méris, qui rendit tributaire la Syrie et l'ancien royaume de Babylone. Thoutmôsis IV, qui envahit l'Abyssinie et le Sennaar. Enfin, Amenhof III, qui acheva la conquête de l'Abyssinie et fit de grandes expéditions en Asie. Il existe encore des monuments de ce roi. C'est lui qui fit bâtir le palais de Soleb en Haute-Nubie, le magnifique palais de Louxor et toute la partie sud du grand palais de Karnak à Thèbes. Les deux grands colosses de Kurna sont des statues qui représentent cet illustre prince. Son fils, Horus, châtia une révolte d'Abyssins et continua les travaux de son père. Mais deux de ses enfants, qui lui succédèrent, n'eurent ni la fermeté ni le courage de leurs ancêtres. Ils laissèrent se perdre en peu d'années l'influence que l'Égypte exerçait sur les contrées voisines. Mais le roi Menephtha Ier releva la gloire du pays et porta ses armes victorieuses en Syrie, à Babylone et jusque dans le nord de la Perse. À sa mort, les peuples soumis s'étaient encore révoltés. Deux points. Ramsès le Grand, son fils et son successeur, reprit les armes, renouvela toutes les conquêtes de son père et les étendit jusque dans les Indes. Il épuisa les pays vaincus et enrichit l'Égypte des immenses dépouilles de l'Asie et de l'Afrique. Cet illustre conquérant, connu aussi dans l'histoire sous le nom de Sésostris, fut en même temps le plus brave des guerriers et le meilleur des princes. Il employa toutes les richesses enlevées aux nations soumises et les tribus qu'il en recevait à l'exécution d'immenses travaux d'utilité publique. Il fonda des villes nouvelles, tâcha d'exhausser le terrain de quelques-unes, environna une foule d'autres de forts terrassements pour les mettre à couvert de l'inondation du fleuve. Il creusa de nouveaux canaux, et c'est à lui qu'on attribue la première idée du canal de jonction du Nil à la mer Rouge. Il couvrit enfin l'Égypte de constructions magnifiques, dont un très grand nombre existe encore. Ce sont les monuments d'Ibsamboul, Deri, Gir-Shehanan et Wadi Essebouah en Nubie, et en Égypte, ceux de Kurna, d'El-Médineh, près de Kurna, une portion du palais de Louxor, et enfin la grande salle à colonnes du palais de Karnak, commencée par son père. Ce dernier monument est la plus magnifique construction qu'ait jamais élevée la main des hommes. Non content d'orner l'Égypte d'édifices aussi somptueux, il voulut assurer le bonheur de ses habitants et publia des lois nouvelles. La plus importante fut celle qui rendit à toutes les classes de ses sujets le droit de propriété dans toute sa plénitude. Il se démit ainsi du pouvoir absolu que ses ancêtres avaient conservé après l'expulsion des barbares. Ce bienfait immortalisa son nom, qui fut toujours vénéré tant qu'il exista un homme de race égyptienne connaissant l'ancienne histoire de son pays. C'est sous le règne de Ramsès le Grand, ou Sésostris, que l'Égypte arriva au plus haut point de puissance politique et de splendeur intérieure. Le pharaon comptait alors au nombre des contrées qui lui étaient soumises ou tributaires deux points. Premièrement, l'Égypte. Deuxièmement, la Nubie entière. Troisièmement, l'Abyssinie. Quatrièmement, le Sennaar. Cinquièmement, une foule de contrées du Midi de l'Afrique. Sixièmement, toutes les peuplades errantes dans les déserts de l'Orient et de l'Occident du Nil. Septièmement, la Syrie. Huitièmement, l'Arabie, dans laquelle les plus anciens rois avaient des établissements. Un, entre autres, près de la vallée de Pharaon, et au lieu nommé aujourd'hui Jebel el-Mokateb, el-Magara, Sabout el-Kadim, où paraissent avoir existé des fonderies de cuivre. Neuvièmement, les royaumes de Babylone et de Ninive, Moussoul. Dixièmement, une grande partie de l'Anatolie ou Asie mineure. Onzièmement, l'île de Chypre et plusieurs îles de l'archipel. Douzièmement, plusieurs royaumes formant alors le pays qu'on appelle aujourd'hui la Perse. Alors existaient des communications suivies et régulières entre l'Empire égyptien et celui de l'Inde. Le commerce avait une grande activité entre ces deux puissances et les découvertes qu'on fait journellement dans les tombeaux de Thèbes, de toiles de fabrique indiennes, de meubles en bois de l'Inde et de pierres dures taillées, venant certainement de l'Inde, ne laissent aucune espèce de doute sur le commerce que l'ancienne Égypte entretenait avec l'Inde, à une époque où tous les peuples européens et une grande partie des Asiatiques étaient encore tout à fait barbares. Il est impossible, d'ailleurs, d'expliquer le nombre et la magnificence des anciens monuments de l'Égypte sans trouver dans l'antique prospérité commerciale de ce pays la principale source des énormes richesses dépensées pour les produire. Ainsi, il est bien démontré que Memphis et Thèbes furent le premier centre du commerce avant que Babylone, Tyr, Sidon, Alexandrie, Tadmour, Palmyre, et Bagdad, villes toutes du voisinage de l'Égypte, héritassent successivement de ce bel et important privilège. Quant à l'état intérieur de l'Égypte à cette grande époque, tout prouve que la police, les arts et les sciences y étaient portés à un très haut degré d'avancement. Le pays était partagé en 36 provinces ou gouvernements administrés par divers degrés de fonctionnaires d'après un code complet de lois écrites. La population s'élevait en totalité à 5 millions au moins et à 7 millions au plus. Une partie de cette population, spécialement vouée à l'étude des sciences et au progrès des arts, était chargée en outre des cérémonies du culte, de l'administration de la justice, de l'établissement et de la levée des impôts invariablement fixés d'après la nature et l'étendue de chaque portion de propriété mesurée d'avance, et de toutes les branches de l'administration civile. C'était la partie instruite et savante de la nation. On la nommait la caste sacerdotale. Les principales fonctions de cette caste étaient exercées ou dirigées par des membres de la famille royale. Une autre partie de la nation égyptienne était spécialement destinée à veiller au repos intérieur et à la défense extérieure du pays. C'est dans ces familles nombreuses, dotées et entretenues aux frais de l'État, et qui formaient la caste militaire, que s'opéraient les conscriptions et les levées de soldats. Elles entretenaient régulièrement l'armée égyptienne sur le pied de 180 000 hommes. La première, mais la plus petite, des divisions de cette armée était exercée à combattre sur des chars à deux chevaux. C'était la cavalerie de l'époque. La cavalerie proprement dite n'existait point alors en Égypte. Le reste formait des corps de fantassins de différentes armes, savoir, deux points, les soldats de ligne, armé d'une cuirasse, d'un bouclier, d'une lance et de l'épée, et les troupes légères, les archers, les frondeurs et les corps armés de haches ou de faux de bataille. Les troupes étaient exercées à des manœuvres régulières, marchaient et se mouvaient en ligne par légion et par compagnie. Leurs évolutions s'exécutaient au son du tambour et de la trompette. Le roi déléguait pour l'ordinaire le commandement des différents corps à des princes de sa famille. La troisième classe de la population formait la caste agricole. Ses membres donnaient tous leurs soins à la culture des terres, soit comme propriétaires, soit comme fermiers. Les produits leur appartenaient en propre et on en prélevait seulement une portion destinée à l'entretien du roi, comme à celui des castes sacerdotales et militaires. Cela formait le principal et le plus certain des revenus de l'État. D'après les anciens historiens, on doit évaluer le revenu annuel des pharaons, y compris les tributs payés par les nations étrangères, au moins de 6 à 700 millions de notre monnaie. Les artisans, les ouvriers de toute espèce et les marchands composaient la quatrième classe de la nation. C'était la caste industrielle, soumise à un impôt proportionnel et contribuant ainsi par ses travaux à la richesse comme aux charges de l'État. Les produits de cette caste élevèrent l'Égypte à son plus haut point de prospérité. Tous les genres d'industrie furent en effet pratiqués par les anciens Égyptiens, et leur commerce avec les autres nations plus ou moins avancées, qui formaient le monde politique de cette époque, avait pris un grand développement. L'Égypte faisait alors du superflu de ses produits en grains un commerce régulier et fort étendu. Elle tirait de grands profits de ses bestiaux et de ses chevaux. Elle fournissait le monde de ses toiles de lin et de ses tissus de coton, égalant en perfection et en finesse tout ce que l'industrie de l'Inde et de l'Europe exécute aujourd'hui de plus parfait. Les métaux, dont l'Égypte ne renferme aucune mine, mais qu'elle tirait des pays tributaires ou d'échanges avantageux avec les nations indépendantes, sortaient de ses ateliers travaillés sous diverses formes et changés soit en armes, en instruments, en ustensiles, soit en objets de luxe et de parures recherchés à l'envi par tous les peuples voisins. Elle exportait annuellement une masse considérable de poteries de tout genre, ainsi que les innombrables produits de ses ateliers de verrerie et d'émaillerie, art que les Égyptiens avaient porté au plus haut point de perfection. Elle approvisionnait enfin les nations voisines de papyrus, ou papier formé des pellicules intérieures d'une plante qui a cessé d'exister depuis quelques siècles en Égypte. Les anciens Arabes la nommaient berd. Elle croissait principalement dans les terrains marécageux, et sa culture était une source de richesse pour ceux qui habitaient les rives des anciens lacs de Burlos et de Menzaleh ou Tennis. Fin de la première partie de 2 de l'appendice aux lettres écrites d'Égypte par Jean-François Champollion ainsi que du 26e fichier.